dépit de tout ce qu'on peut vous raconter, les mots et les idées peuvent changer le monde.
Ce labo sera votre labo.
Vous avez carte blanche.
Carte blanche numéro 8, Phéromones et contrebasse, épisode 2, une émission présentée par Hervé Lemaine et Philippe Hardy dans le cadre de la production du spectacle du même nom par la compagnie Les Tiroirs Noirs.
Bonjour. Avec Philippe, dans l'émission précédente, nous avons raconté la première histoire de notre spectacle, Phéromones et contrebasse. Il y était question de Luciole. Aujourd'hui, il s'agira d'éphémère. À la suite de cette histoire, on dira quelques mots sur sa construction. Place aux éphémères. Île de Madère, 6h du mat. L'éphémère consulte son programme génétique.
Se nourrir, rencontrer une éphémère, faire des bébés et mourir avant ce soir.
Et il s'envole vers un destin tout tracé, quand, pris d'un doute, il se pose sur le pétale d'une marguerite. Et que dois-je faire d'important encore ? Je ne peux quand même pas me limiter à ma fonction biologique. Non, la journée ne vaudrait pas la peine d'être vécue. L'éphémère acceptait d'être éphémère seulement si sa vie avait un sens.
Il n'avait pourtant pas le choix.
Vers 11h, une tortue se gare sous sa fleur. Elle éteint ses feux de croisement et s'endort au volant. À son réveil, l'éphémère, toujours bloqué sur le sens de la vie, mais inquiet du temps qui passe, lui demande l'heure. « L'heure ?» dit la tortue. « Je crois, monsieur, que le soleil... » Elle regarde le soleil, vérifie l'absence d'ombre, regarde l'éphémère et poursuit. « Justement, en train d'atteindre son zénith. » « Déjà ?» dit l'éphémère. La tortue lui demande s'il est pressé. L'éphémère lui donne le programme de sa vie. La tortue ne le comprend pas, l'urgence ne lui dit rien. Elle sort de sa caravane une bouteille de pastis, une carafe d'eau, deux verres, une table pliable, deux chaises pliables, des cacahuètes salées, du chorizo coupé en tranches, des apéricubes au fromage, et invite l'éphémère à prendre l'apéro. Il refuse. Il ne veut ni boire ni manger avant d'avoir donné un sens à sa vie. Il accepte la chaise pliable. « Avez-vous déjà fait des bébés ?» demande-t-il brusquement. La tortue juge la question indiscrète, mais accepte de répondre. « Oui, quarantaine de fois ? » ?»« Une quarantaine de fois, mais quel âge avez-vous ?» L'éphémère a beaucoup de mal à convertir 70 ans en jours. 25 550 jours. 25 550 jours. 25 550. 25 550. Se répète-t-il jusqu'à 13h30. La tortue en profite pour faire une seconde sieste. Quand elle ressort de sa caravane, l'éphémère lui demande tout aussi brusquement « Et à part manger, dormir et vous reproduire, que faites-vous d'autre ?» La tortue juge la question déplacée, mais accepte encore une fois de répondre, parce qu'elle n'a pas appris à refuser. Je me balade. La nuit dernière, j'ai fait la vallée de Chevreuse. Oui, mais sur le plan artistique, philosophique et religieux, précise l'éphémère. Rien. Pourquoi ? Pris d'une colère soudaine contre un éventuel créateur de tout cela, l'éphéméroptère décide de casser la mécanique de son destin si absurde en faisant la fête le reste de sa vie. Il se rend à un grand rassemblement d'éphémères. Tous ceux de la région sont là. L'information a circulé comme une rumeur, une génération se rencontre. C'est une fête extraordinaire, comme si chacun vivait ses derniers instants. Tous dansent, volent, s'aiment. L'éphémère est captivé par une éphémère aux ailes resplendissantes. Sa colère se dissipe. Il lui fait la cour avec patience. Il ne veut rien précipiter. Elle non plus. Pourtant, en fin d'après-midi, il se retire de la fête, patte dans la patte. L'éphémère a la prudence de ne pas trop parler du sens de la vie. Les deux éphéméroptéra rient, se regardent, se rapprochent, se touchent et, fatalement, font des bébés. Cependant, la nuit approche et avec elle, toutes les angoisses métaphysiques. Dans ce crépuscule, l'éphémère, plus philosophe que résigné, dit « Le temps de l'action doit céder le pas au temps de la spiritualité. » Il en parle à l'éphémère. Elle lui dit « Oui, tout à fait. » Face au spectacle du soir qui tombe, il se sent soudainement en état d'osmose et se souvient de la tortue. Est-ce cela le sens de la vie ? Il ne peut répondre à cette question car au coucher du soleil, il meurt sans avoir le temps ni d'y penser ni de prévenir quelqu'un. Île de Madère, 6h du mat. Le fils de l'éphémère naît au printemps, un matin à 6h lui aussi. C'est un fils, mais il remarque tout de suite qu'il n'a pas de père, pas de mère, pas de tante, pas d'oncle. « Pas de conflit de génération !» dit-il. Il consulte son programme génétique, le même exactement que celui de son père. Il ne le voit cependant pas comme une programmation, mais comme un patrimoine génétique, un héritage à engloutir dans la joie et la bonne humeur durant tous ses loisirs, c'est-à-dire toute sa journée. Pour faire la fête, il choisit de rester dans le pré de sa naissance et d'en faire celui de sa vie. Cela lui donne le temps de traîner toute la matinée, presque de s'ennuyer. Pour mieux sentir le temps passer, il se perche sur le pétale d'une marguerite et regarde les nuages défiler. Vers 11h, la tortue se gare sous sa fleur. Elle éteint ses feux de croisement et s'endort au volant. Une sieste en fin de matinée, mais comment n'y avais-je pas pensé ? L'éphéméroptère s'allonge sur son pétale, ferme les yeux, sent son corps prendre la consistance d'un oreiller. Des images flottent devant lui, il se met à rêver et s'endort. Vingt minutes plus tard, il se réveille en même temps que la tortue. Elle reconnaît le fils de l'éphémère, s'inquiète immédiatement pour lui et lui demande l'heure. « L'heure !» répète l'éphémère, qui a décidé de ne pas s'en soucier de la journée. « Oui, enfin, je veux dire, savez-vous si le soleil a atteint son zénith ?» Cette question, qui semble vitale à la tortue pour l'éphémère, stupéfie le fils de l'éphémère. Pourquoi se préoccuper de l'heure quand il suffit de suivre le programme ? Il regarde le soleil qui est justement à son zénith.
Tiens, c'est l'heure de l'apéro.
Déjà ? Dit la tortue. L'éphémère lui demande si elle est pressée.
Non,
dit-elle, surprise par sa réaction. Pour reprendre consistance, elle va chercher dans sa caravane une bouteille de pastis, une carafe d'eau, deux verres, une table pliable, deux chaises pliables, des cacahuètes salées, le reste du chorizo coupé en tranches, et invite l'éphémère à boire l'apéritif. Voilà une matinée qui se suspend d'elle-même. Le soleil chauffe, la chaise pliable est confortable, le pastis excellent, les cacahuètes salées aussi. Devant la décontraction de ce fils d'éphémère, la perplexité de la tortue grandit.
« Avez-vous déjà fait des bébés ?»
demande-t-elle brusquement.
L'éphémère éclate de rire. « Des bébés, non, pas encore !»
Gênée d'avoir posé cette question, la tortue retourne dans sa caravane pour sa seconde sieste. L'éphémère s'endort sur sa chaise. 20 minutes plus tard, réveillé par la tortue, il sourit. « Oui ?
Il y a une grande fête d'éphémère cet après-midi. Je suis venu y vendre des salades. Vous-même, vous devez avoir des choses à faire, non ? Seulement venir à cette fête, je peux vous aider si vous voulez.
Non, 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 je pense avoir le temps de tout préparer. »
L'éphémère dit au revoir à la tortue. Elle le regarde comme un condamné à mort et devient toute pâle. Il lui conseille de prendre du repos et s'en va vers la rivière. Vers 15 heures, tous les éphémères de la région sont là. Une génération se rencontre. C'est une fête extraordinaire, comme si chacun vivait ses derniers instants. Tous dansent, volent, s'aiment. L'éphémère est comblé quand il rencontre une éphémère aux ailes resplendissantes.
Quel programme, mais quel programme !
En fin d'après-midi, patte dans la patte, ils se retirent de la fête et fatalement font des bébés. Vers 20 heures, au soleil couchant, ils allument une cigarette et contemplent le paysage. Après une si belle journée, ils sont fatigués et s'embrassent une dernière fois.
Hervé, la dernière histoire que tu nous as contée sur les Lucioles se basait sur des faits scientifiques avérés. Est-ce que c'est également le cas de cette histoire sur les éphémères ?
Oui, je suis parti d'une lecture d'un livre qui s'appelle « Le gène égoïste » de Dawkins, Richard, je crois. Un livre de vulgarisation scientifique, hein, c'est pas un livre qui s'adresse aux généticiens. Et parallèlement, il y avait le Génopôle d'Ivry qui faisait un appel d'offres pour la création d'une pièce de théâtre scientifique. À ce moment-là, moi j'étais à Paris, j'avais déjà écrit « L'erreur de Darwin », donc c'était une pièce de théâtre plutôt burlesque sur Darwin, enfin sur Darwin, sur la compétition entre des scarabées. Bon. Et j'avais écrit un autre texte qui avait été acheté par le synchrotron Soleil sur la physique quantique. En fait, c'était une course d'électrons dans un accélérateur de particules. Donc je me sentais en confiance pour répondre au Génopôle et j'ai écrit un long texte, assez long, hein, il y avait, je sais pas, peut-être plus de 50 pages, où je mettais en scène un philosophe qui s'interrogeait sur la programmation génétique, et ça le gênait d'être programmé, mais il ne pouvait pas faire grand-chose parce qu'il ne connaissait que la philosophie. Donc il a appris la génétique, et grâce à la génétique, il a commencé à pouvoir manipuler son programme génétique. Et je ne sais plus d'ailleurs ce qu'il a inventé, mais bref, ce qui m'amusait là-dedans, c'est que le philosophe ne pouvait pas faire grand-chose, beaucoup parler, mais peu agir. Et le généticien, il pouvait agir immédiatement et aller d'ailleurs vers des choses qui pourraient être terribles. C'est un peu ce que font c'est un peu le programme, ça fait partie du programme des transhumanistes aujourd'hui, d'utiliser tous les outils à disposition, de l'informatique jusqu'à la génétique, pour changer son destin, ou en tout cas sa vie, voire pour atteindre l'immortalité. Et dans mon histoire, donc, l'éphémère, il voit qu'il est, voilà, il est réduit à une fonction biologique, se reproduire, ça le gêne. Et j'ai fini par écrire une deuxième partie, donc il y a le premier éphémère qui conteste son programme génétique, il ne veut pas se limiter, même si finalement il s'y tient. Et puis il y a le deuxième éphémère, qui fait l'inverse. Et ça me plaisait beaucoup de mettre en scène un héros qui part dans une direction et le deuxième qui va dans la direction inverse. Et ça me plaît d'autant plus que moi je suis à peu près d'accord avec ces deux éphémères. On peut contester son programme, par principe, ne pas être programmé, mais on peut aussi tout aussi bien l'accepter, notamment à propos de la mort, parce que bon, la mort, on ne peut pas faire autrement que l'accepter. Et dans l'histoire de ce deuxième éphémère, il accepte et tout se passe très bien. Voilà, la journée a été belle et ça s'arrête là.
Et au point de vue de l'écriture, tu parles de 50 pages, ça parle d'un philosophe, et tu arrives à 2 ou 3 pages peut-être, et ça parle d'un éphémère. C'est parce que l'objet final n'est plus le même en fait.
C'est ça, au début je m'adressais dans ma tête, à des généticiens. Le Génopôle d'Ivry, qui a beaucoup d'argent, qui a un amphithéâtre pour jouer, enfin, il y a tout ce qu'il faut. Et je voulais leur parler de génétique, évidemment. Donc j'ai lu, en plus, ça m'a obligé à lire sur la génétique. Mais la génétique, c'est très... Enfin, moi, je ne suis pas biologiste, je ne suis même pas scientifique. Donc la génétique, c'est très compliqué. Mais en revanche, ce qu'elle donne à penser sur l'idée de programme, de reproduction, etc., Ça m'intéresse beaucoup, là j'ai des choses à dire. Et c'est vers ça que j'ai été, et c'est comme ça que j'ai inventé peut-être le deuxième personnage. Mais je m'en souviens plus trop, parce que c'était il y a longtemps, c'était il y a 20 ans. Mais forcément, cette histoire, une histoire que t'écris, elle change, jusqu'à ce qu'elle atteigne une forme exploitable. Et là, la forme exploitable, c'était réduit à 6 pages. C'était exploitable parce que je pouvais en faire un texte que je pouvais lire dans un théâtre. Et je l'ai essayé dans un bar une fois. Bon, il n'y a pas eu de suite. Mais en revanche, elle a été publiée, cette histoire, grâce à mon frère, qui est poète et qui a fait une anthologie de la poésie. Alors, ce n'est pas vraiment de la poésie, mais bon, il a placé dedans. Donc, elle a été publiée. Et puis, ça s'est arrêté là, jusqu'au moment où on s'est rencontrés. Et où on a eu l'idée de travailler ensemble pour faire du théâtre, mais en associant musique et texte. Et ton cordophone, finalement, parce que au début, moi, je voulais pas, j'y croyais pas assez à cette histoire. Mais quand il m'a présenté le cordophone et le son qu'il a, ça m'a donné envie de reprendre cette histoire pour en faire un spectacle avec toi, avec la musique que tu apportes.
Avec le cordophone. Avant de parler du cordophone, pourquoi l'éphémère ? Quelle relation tu as particulière avec l'éphémère ? Est-ce que tu te sens un peu éphémère dans en tant qu'humain, on a une vie qui est plus longue que celle de l'éphémère, mais qui est éphémère quand même.
C'est la relation. Moi, la relation que j'ai à ça, elle est assez simple. C'est un rapport au temps qui me gêne pour pas mal d'endroits. Par rapport à la musique, par exemple, être dans le temps, j'ai beaucoup de mal. Un moment, dans un spectacle, je chantais une chanson de rock. J'y arrivais pas.
Parles du tempo, pas du temps.
Ouais, c'est déjà, mais le tempo, ça a à voir avec le temps, le rapport au temps. Le tempo, c'est... j'ai une amie chanteuse et prof de chant qui m'a dit « Tu marches comme un bébé, paf, 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 et tu vas avoir le rythme du rock. Voilà. » Et le fait d'être dans le rythme, ça m'arrive parfois, eh bien, on se sent bien, on est dans le rythme avec les autres. Mais le rythme suppose un rapport au temps, et moi, je pense qu'il est un peu détraqué, c'est-à-dire je suis assez souvent dans l'urgence. Si je ne suis pas dans l'urgence, je m'endors, à vrai dire. Donc. Et l'urgence, c'est celle de l'éphémère. Il faut vivre rapidement, il faut faire plein de choses. Mais au final, on le voit dans cette histoire, il y a deux rapports au temps. Il y a un, c'est le temps, voilà, il suffit d'être dedans. Et l'autre, c'est un stress avec le temps. Moi, je crois parfois avoir un stress avec le temps, et je trouve que ça, c'est bien raconté par le premier éphémère.
Par le premier éphémère, oui. Alors, si on en revient maintenant à la musique, un petit peu, et au temps de la musique, moi j'ai trouvé que quand on a mis ce texte en musique, même si tu n'as pas une notion du tempo, tu as une bonne notion du temps. Parce que souvent, on a pu reprendre les choses et dire « Ah, là, ça va trop vite. Là, ça va pas assez vite. » Et ça, c'est quand même une sensibilité que tu as, même si tu n'as pas ce tempo du rock.
Bah, je te remercie, oui. Et d'ailleurs, quand tu construis une histoire, quelle qu'elle soit, une pièce de théâtre surtout, je crois, c'est qu'il faut que ça file, faut que ça...
Et il y a un rythme.
Oui, il faut éviter les longueurs. C'est de la subtilité. Mmh. Mais par rapport à la musique, non, j'ai appris le saxophone, par exemple. Je voulais jouer avec des gens, mais ça ne marchait pas.
Tu n'as jamais trouvé d'éphémère qui avait le même tempo que toi.
Non, mais il y a un confort à être dans le temps commun, ouais, et ce n'est pas toujours facile. Voilà. Mais ça n'empêche pas, oui, j'ai un rapport au... Enfin, je pense que quand j'écris une histoire, je pense beaucoup à la succession des scènes et au rythme, c'est très important. Là, je suis capable de me débrouiller. Mais si on revient vers toi, Philippe, quand je t'ai donné cette histoire, tu m'as sorti un instrument de musique que j'ai découvert, un cordophone, j'ai mal en parler, enfin il est sur quatre pieds, et puis c'est un peu comme le manche d'une guitare, et il y a des cordes dessus, et c'est amplifié, et donc c'est avec ça que tu as fait la bande-son de l'éphémère. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir qu'est-ce qui t'a donné l'idée de le fabriquer, qu'est-ce que tu en as obtenu, de quelle manière il t'aide à composer des choses que tu ne composerais pas autrement.
Qu'est-ce qui m'a donné... Déjà, l'envie, moi, j'aime bien bricoler. Donc j'aime faire de la musique et j'aime bricoler. Et donc à un moment donné, ces deux passions se rencontrent. Et le cordophone que j'utilise là, c'est pas une invention, c'est pas une de mes inventions. Ce sont des instruments qui existent déjà. Donc la base de celui-là, c'est je suis parti avec deux cordes de contrebasse qui sont tendus sur un châssis en bois. Et dans ce châssis en bois, bah, il y a des micros piezoélectriques et des micros électro, c'est-à-dire comme des micros de guitare. Et les micros piezo, c'est des micros de contact, on va dire. Donc, déjà au départ, c'était l'envie d'essayer des sonorités nouvelles, des sonorités autres. Sortir un peu des sentiers battus des instruments.
Tu dis que ça existait avant, sous quelle forme ?
Ouais, un peu sous cette forme-là.
Un dulcimer, par exemple ?
Un dulcimer est un cordophone.
Oui, ouais, d'accord.
C'est ça. Mais il y a un musicien dont le nom ne me revient pas, là, qui a déjà utilisé ce genre de choses. Bon, on va dire que c'est un instrument primitif, qui utilise des cordes qui résonnent sur une caisse de résonance. Si tu prends une guitare, c'est un cordophone. Une contrebasse, c'est un cordophone. Tous les instruments qui utilisent des cordes qui résonnent avec une caisse de résonance sont des cordophones.
Après, il y a la façon dont tu accordes les cordes ensemble.
Voilà. Ouais. Donc là, c'est un instrument, on va dire, qui est beaucoup plus simple et qu'une guitare, et qu'une contrebasse, et qu'un violon. C'est un instrument vraiment qu'on pourrait définir comme un instrument primitif. Il est simple. Et ça me plaît bien, moi, d'avoir cet instrument qui est très simple. Les deux cordes sont accordées pareil, en fait. Moi, je les accorde
sur... Ah oui, c'est à l'unisson.
Oui, elles sont à l'unisson. Mais on peut les accorder comme on veut. En fait, ce qui m'intéressait dans la démarche avec cet instrument, c'est créer un instrument, puis après, essayer d'exploiter... comment j'allais pouvoir en jouer, apprendre quelque chose, en fait. C'est un objet tout nouveau pour moi, et je vais apprendre à en jouer. Alors, comment je vais l'utiliser ?
Et alors, tu l'as utilisé ailleurs aussi ou...
Ah oui, je l'ai utilisé ailleurs. Je l'ai utilisé notamment dans des groupes d'improvisation ou pour d'autres projets, notamment avec Awen Plougoulm, avec qui je travaille de temps en temps, qui fait des contes pour les enfants en breton.
Au regard de cette expérience avec Awen, c'est ça?
Oui.
Et avec moi, tu vois un usage un peu défini ou possible, qui ne serait pas possible avec un autre instrument, quoi. Voilà.
Bah, il a sa personnalité, cet
instrument. Voilà, une personnalité.
Signature.
Hein.
Il a une signature. On peut l'utiliser comme on le souhaite. Maintenant, c'est pas le problème, c'est sa capacité à produire des sons. Elle est comme pour un autre instrument, mais ce qu'elle a d'intéressant pour moi, c'est qu'elle est à découvrir encore. Et ce qui est assez marrant, par exemple, avec Awen, de temps en temps, on fait de l'improvisation purement musicale, et je lui ai donné cet instrument, et je lui ai dit, joue-en. Elle n'en joue pas du tout comme moi j'en joue. Et c'est ça que je trouve intéressant. Alors cet instrument, donc c'est deux cordes tendues, entre un sillet et un chevalet, on va dire. Et moi, je les joue soit avec les doigts, soit avec un archet, soit avec des maillotches, avec un bottleneck. Je peux mettre, intercaler des espèces de sillets intermédiaires. Voilà, ça me permet d'essayer de trouver des univers sonores qui changent de ceux qui sont proposés par des instruments traditionnels, on va dire. Et puis ce qui m'intéresse aussi, c'est ce côté primitif de l'instrument. Il suffit à lui-même, il n'y a pas d'électronique. Bon, là il est amplifié parce que la caisse de résonance demande de l'amplification, mais il se suffit à lui-même pour créer un univers sonore assez vaste. Et c'est ce qui m'intéresse. Donc là, dans la pièce éphémère que l'on joue ensemble, j'utilise ce cordophone basse, et j'en ai également fabriqué un qu'on entend de temps en temps, qui fait des sons égrenés très aigus.
Oui.
Et c'est également un cordophone aigu qui est sur le même principe, mais au lieu d'utiliser des cordes de contrebasse, il utilise toute une série, il y en a 9, les cordes aiguës de guitare et les cordes de mandoline. Donc là, je vais avoir un son beaucoup dans les aigus. Et celui-là, de la même façon, je vais essayer d'apprendre à l'utiliser. J'apprends à en jouer. Tous les jours, j'apprends à en jouer. Comment je vais essayer de le triturer d'une certaine façon. Donc celui-là, c'est pareil. Je peux le jouer avec une maillotche, je peux le jouer avec un archet, avec un bottleneck, avec les doigts. Crée un univers sonore aussi particulier.
Si je peux résumer, enfin je ne sais pas si c'est résumable, mais si je peux me permettre.
Vas-y.
J'ai l'impression que tu changes le cadre. Le cadre, bon, une contrebasse, tu as un cadre, bon, il y a toute une tradition, voilà. Il y a un jeu qui se fait à l'intérieur, même si c'est hyper ouvert. Mais toi, tu changes, tu casses le cadre, tu fabriques un autre instrument qui n'a pas cette tradition, qui n'a pas non plus tout ce répertoire, et qui t'amène de fait à être face à des choses nouvelles, puisque tu sais pas, enfin, l'ignorance finalement de cet instrument te permet d'aller au-delà de ce que tu fais habituellement et créer aussi des sons aussi nouveaux que ceux qu'on vient d'entendre.
Il y a cet aspect-là, puis l'aspect primitif aussi me va assez bien. C'est, je pense
primitif,
que les...
c'est quoi? C'est low-tech.
C'est voilà low-tech, et puis dans le sens premier, je pense que les premiers instruments de musique qui ont été créés ne devaient pas être bien loin de ça. On prend une corde, on la tend sur quelque chose et ça résonne. Et tout d'un coup, on dit, bah tiens, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Où est-ce que ça m'emmène musicalement? Où est-ce que ça m'emmène? Je vais créer des paysages sonores qui vont exprimer des choses. Donc, j'aime bien cette approche de la musique, qui est, comme tu dis, effectivement, c'est pas un instrument qui a un répertoire. Et pourtant, je pense que beaucoup de musiques primitives peuvent se rattacher à cet instrument-là. C'est quelque chose de à la fois très simple et très ouvert.
Tu pourrais éventuellement jouer quelques petites notes.
Oui, oui.
Thank you.
Dans la prochaine émission, nous suivrons deux éléphants aux prises avec leurs phéromones.